Jean de la Brette. Frédéric ou un caractère parisien. Chapitre 1. Monsieur d'Hautefort était un singulier garçon, probablement parce que les bons éléments de sa nature se réunissaient dans une sensibilité aiguë et délicate. Après une chute dont les suites avaient été une fracture insuffisamment remise, il marchait péniblement, quelquefois même avec des béquilles, lorsque, sous l'influence de l'atmosphère ou d'une marche un peu longue, il souffrait sérieusement. Alors il s'enfermait chez lui et, à ses plus intimes amis, refusait obstinément sa porte. Il entendait qu'on ne le vit pas dans une humeur massacrante et regrettait toujours les mouvements emportés provoqués par la souffrance. Il professait l'horreur des plaintes qui, disait-il, humilient ou diminuent l'homme. Quelques expériences l'avaient dégoûté complètement des amours faciles, et il ne rêvait que des joies honnêtes du foyer, d'autant que ses parents lui laissaient le souvenir précieux d'un ménage très uni. Souvent, il observait les couples qui paraissaient heureux, et rentrait dans son appartement solitaire, imaginait sa vie sous une douce influence féminine. Un incident très petit revenait fréquemment à sa mémoire. Ils étaient au bord de la mer, assis près de jeunes mariés qui écoutaient silencieusement le bruit des vagues déferlant avec colère sur la plage. Mais le mari, se tournant vers sa compagne, la regarda longuement. Il la sortit de sa contemplation par quelques mots qui épanouirent la jeune femme. Elle posa une main caressante sur le bras de son mari et, avec un véritable serrement de cœur, Gerbert d'Hautefort observait l'affection dont il était privé. Que l'être humain a besoin d'être aimé, et qu'il est heureux s'il se sait aimé. Douloureux refrain qui, trop souvent, revenait l'assombrir. Cependant, en apparence, il prenait son parti de sa solitude. Ayant décidé qu'un homme ne doit pas se plaindre, mais doit réagir contre le malheur et rougir de pleurer sur lui-même, il était, sauf dans des cas rares, d'un commerce facile et souriant. Ni misanthrope, ni aigri, il se savait toutefois très éloigné d'une perfection quelconque, car ses meilleurs sentiments se mélangeaient d'un grand dédain pour l'opinion des autres. Si un regard ou un mot le blessait, il considérait la blessure du haut d'une philosophie particulière, ou plutôt d'une sorte d'indifférence qui l'incitait à mettre beaucoup de gens et beaucoup de fêtes sur le plan de ses dédains. Ses jugements s'imprégnaient donc d'une hauteur dissimulée sous des dehors courtois, mais qui, découverte, lui enlevait des sympathies. Jeune, il rêvait la gloire et, devenu homme, homme malheureux, trouvait presque comique ses aspirations d'adolescent. Riche, généreux, il avait des amis qui, sans pénétrer dans l'intimité d'une âme assez fermée, se contentaient, pour apprécier M. d'Hautefort, de qualités certaines. « Je ne sais, lui disait l'un d'eux, pourquoi vous ne cherchez pas dans l'art une brillante application de vos dons. Vous dessinez et peignez bien. Parce que, à mon avis, mes dons sont secondaires. Et je lisais dernièrement qu'il faut éviter de poursuivre une célébrité qu'un homme mal doué n'estime pas d'après son propre mérite, mais d'après le mérite des autres. « Je ne vous trouve pas mal doué, répondait M. d'Auzac, et le travers dont vous parlez n'est pas votre cas. » Il le deviendrait, mes talents d'amateur ne peuvent être qu'une distraction, non un but impossible à atteindre. Mais il avait pour principe arrêté qu'un homme, fût-il riche, doit s'astreindre au travail. Il pensait aussi, avec raison, que le travail doit être obligatoire et conduit avec un immuable esprit de suite. Au grand étonnement de ses relations, il accepta une position sans relief dans le ministère des Travaux publics, dont il connaissait un gros chef, et nul attaché de la maison ne fut plus exact. Ses collègues, le sachant riche, ne le regardèrent pas tout d'abord avec la sympathie que devait inspirer une politesse qui devenait facilement de la cordialité. « Un original, » disaient les uns. « Que fait-il ici? Pourquoi prendre la place d'un homme sans fortune ?»« Alors, » répondit une jeune fille, « au nom de la richesse, il ne serait plus permis de conduire la vie à son gré ?» « Absurde, mon cher! Est-ce que les grandes entreprises ne sont pas dirigées par des hommes riches ?»« Ceux-là ont un dessein déterminé. Une direction intéressante ne ressemble pas aux petites occupations d'un simple employé. Employé avec d'excellents revenus, quelle stupidité !» Les petites occupations sont des rouages nécessaires, et encore plus stupides de passer ses jours à ne rien faire. J'admire vraiment M. d'Hautefort, il a su se discipliner. Beaucoup devraient suivre son exemple. Eh bien, vous avez l'admiration facile. Frédéric Loral n'avouait pas le véritable motif de son opinion sur le jeune homme, mais quand elle le voyait se lever avec peine et prendre évidemment sur lui pour dissimuler de la souffrance, elle s'efforçait de lui rendre de petits services qui évitaient à M. d'Hautefort des mouvements pénibles. Elle lui apportait le papier dont il avait besoin sous le prétexte d'aller en chercher pour elle-même ou se proposer pour demander au chef renseignements utiles. Si la chaise de Gerbert n'était pas à sa place, elle s'empressait de la lui donner. Lui, pendant un temps assez long, ne fit qu'une attention polie et distante à la manœuvre aimable de Mlle Loral, car elle était complaisante avec tout le monde. Cependant, peu à peu, il la remercia avec une politesse moins guindée, bien que la complaisance de sa jeune camarade lui rappela souvent son infirmité. Sans être réellement jolie, elle plaisait à tous par son air avenant. D'une intelligence vive, l'air heureux, elle prenait avec gaieté la nécessité de travailler. Si elle se savait un peu dédaignée par d'anciennes camarades de classe dans une situation très supérieure à la sienne, elle haussait les épaules. « Vous ne leur en voulez pas ?» lui dit Gerbert, à qui elle racontait une rencontre désagréable. « Pas du tout. En veut-on aux oies parce que ce sont des oies ? Qu'elles fassent donc ce que je fais moi-même. Leur orthographe ne m'inspire aucune confiance. » De famille modeste, elle n'enviait rien, enchantée d'ailleurs de gagner sa vie et d'aider ses parents. Après des classes assez complètes, son esprit était aiguisé par les ressources intellectuelles de Paris qui, quoique superficielles, forment et développent l'intelligence dans les petits milieux. Au-dessus de la midinette, elle avait le sentiment de son importance et partageait les idées égalitaires qui sont dans l'air. Frédéric était le type de la jeune Parisienne délurée, sérieuse, très gaie, bonne et coquette dans sa mise. Le type de ces jeunes filles qui, après avoir travaillé courageusement toute la semaine, s'amusent gaiement les jours de congé. Son instruction, assez forte au point de vue de la langue française, lui avait permis d'obtenir une place de sténographe au ministère des Travaux publics. Ravie de son poste, elle étudiait toujours sa langue avec enthousiasme. Elle découvrait facilement l'expression juste pour émettre sa pensée et saisissait au vol les finesses d'une conversation ou d'un mot. Elle aimait follement le théâtre, mais dédaignait les petites scènes, et il est certainement curieux d'observer les simples à la représentation de nos chefs-d'œuvre. On reste stupéfait en écoutant les réflexions inspirées par un goût ou un instinct naturel. Frédéric, plus instruite que les gens purement du peuple, appartenait cependant à un milieu parfaitement illettré et, malgré les lacunes de sa culture, aimait par-dessus tout la comédie française, à l'inverse des gens du monde qui préfèrent la polka des chaises à Coriolan. Le meilleur ami de M. d'Hautefort était Fabien Dauzac, ancien camarade de collège, spirituel et très travailleur. Dénué des principes qui combattent l'égoïsme naturel, il s'était cependant attaché à Gerbert, dont la bonté se plaisait à lui offrir des distractions incompatibles avec un revenu restreint. Pendant les vacances, ils voyageaient ensemble, M. d'Hautefort se privant des soins d'un valet de chambre pour laisser croire à Fabien que sa présence était indispensable. Dauzac prenait ses affirmations à la lettre et, convaincu, ou voulant l'être, qu'il rendait service, il oubliait d'être reconnaissant, d'autant qu'il supportait quelquefois une humeur irritable. Il discutait souvent la possibilité de se marier, mais M. d'Hautefort rejetait bien l'idée pour lui-même. « Les circonstances m'obligent à m'arranger de la solitude et je m'en arrange. » « Peut-être avez-vous tort. » Je connais des blessés de guerre mariés à des femmes aimables. Les ménages sont heureux. » La réponse, qui touchait aux sentiments les plus secrets de Gerbert, devait avoir des conséquences. « Mais vous, Fabien, pourquoi, puisque vous prêchez le mariage même à un infirme, n'êtes-vous pas déjà marié ?»« J'ai le temps. Je ne suis pas, vous le savez, d'une origine élevée. Ma famille est à peine à la troisième étape et sa fortune est à l'unisson. » Très suffisante pour un célibataire, elle ne l'est pas pour fonder un foyer. « Je ne connais rien d'honorable, » répondit Gerbert, « comme ces unions un peu imprudentes qui se basent sur la foi dans le travail. Et vous êtes un sérieux travailleur, Fabien. » « Oui, travailleur, avec la conviction de devenir très riche par mon travail. Mais il faut être prévoyant, penser aux enfants, aux mécomptes, à la maladie, que sais-je. » Sans doute, mais que de gens ne se marieraient jamais si toutes les éventualités les arrêtaient. Cependant, Gerberne ne serait pas insensible à la gentillesse de Mademoiselle Loral. Blessé les premières fois, il s'habitua à des attentions qu'il en vint à considérer comme l'expression d'une sympathie qui le rendait très songeur. Il ne se dérobait plus à des conversations, ils échangeaient des idées, des appréciations, et, sous certains rapports, l'esprit ouvert de Frédéric le surprenait. En même temps, elle avait des réparties, des jugements qui révélaient de la naïveté et une instruction sans corrélation réelle avec les sujets discutés. Elle s'en rendait compte et riait d'elle-même avec une bonne grâce qui plaisait à Gerbert. Les entretiens se prolongeaient parfois dans la rue avec M. Dauzac qui rejoignait son ami à la sortie du ministère. Votre petite collègue, simple, gaie, aimable et séduisante, dit-il un jour en souriant. Quel type agréable de parisienne! D'où sort-elle avec son petit air déluré, sa parole correcte et ses jugements drôlés? D'une famille simple, m'a-t-elle dit, car elle se raconte avec candeur. Vous ne m'étonnez pas, elle doit être expansive et sa gaieté est communicative. Sans insister, il s'arrangea pour rencontrer plus souvent Frédéric. Gerbert l'avait présenté comme son meilleur ami et les relations furent bientôt assez naturelles pour que Fabien demandât la permission de rendre visite aux parents de la jeune fille. Mais la demande ne fut pas adressée devant M. d'Hautefort. Observateur, Fabien soupçonnait déjà une rivalité entre lui et son ami. Il était certain que Gerbert subissait une influence bienfaisante qui bouleversait ses idées et ses résolutions. Il n'entrait plus au ministère sans éprouver une satisfaction qui métamorphosait l'atmosphère de routine et d'ennui. En arpentant le boulevard Saint-Germain, il pensait sans cesse aux affirmations encourageantes de M. Dauzac. Pourquoi n'aurait-il pas raison? Mais, en face de la décision à prendre, il retomba dans l'incertitude, encore plus dans sa défiance habituelle. De quel droit proposerait-il une vie de dévouement à une jeune fille aussi gentille? Il savait bien que l'existence avec lui nécessiterait une certaine abnégation. Pouvait-il se faire aimer dans de telles conditions? Quelle folie! Une heure après, il s'égarait dans les désirs que l'amabilité de Mademoiselle Loral encourageait. Elle était pauvre, astreinte au travail, et la position qu'il lui eût offerte ressemblerait à un conte de fées réalisé. Alors il ressassait des raisonnements très justes, sans son infirmité. Il la mettrait dans un monde qu'elle ignorait et la comblerait avec sa fortune. Il fuirait le ministère pour entreprendre des voyages qui enchanteraient l'intelligence déliée de Frédéric. Cependant, il reculait, se moquait de lui-même et souffrait de ses alternatives répétées. De son côté, M. Dauzac, que la jeune fille attirait de plus en plus, pensait continuellement à elle. Mais il eut attendu pour demander sa main sans un héritage qui survint inopinément. « Petit héritage, mais suffisant pour me marier, » dit-il à Gerbert. « Suffisant aussi pour me lancer dans une entreprise qui me plaît et sera lucrative. » « Je suis heureux, mon cher, de cette bonne aubaine qui vous permet de réaliser ce que vous conseillez aux autres. » « Et que je conseille encore, » répondit gaiement Dauzac. « Pourquoi pas, Gerbert ?»« En effet, pourquoi pas, » murmura M. d'Hautefort. « Vous y venez, n'est-ce pas ?»« Peut-être. »« Vous avez choisi. Qui est-ce ? Soyez confiant, je serai moi-même un ami ouvert avec vous. »« Vous la connaissez, Frédéric Loral. » Fabien, réprimant un vif mouvement, s'enveloppa de la fumée de son cigare pour cacher sa grande émotion. « Elle m'a toujours paru aimable avec vous, » dit-il posément. « Elle l'est avec tous, mais vous aviez remarqué avec moi ?»« Son air aimable, certainement. Son cœur, je crois, la dirige souvent, et avec vous, quoi de plus naturel ?»« « Je pense de la même manière, » répondit sèchement Gerbert, qui apercevait dans les paroles de M. Dauzac une allusion à son malheur. Fabien avait cependant parlé sans intention cachée, et il attendit avec inquiétude une confidence complète. « Vous ne savez pas, » reprit Gerbert qui se parlait surtout à lui-même, « combien il me paraît difficile d'avouer, de m'expliquer. »« Avouer ? Vous en êtes à la pensée de l'aveu ?»« Je parais lui plaire, » répondit M. d'Hautefort avec hésitation. « Je me répète qu'elle est aimable avec tout le monde, et pourtant, je crois que... »« Au reste, vous la connaissez assez pour la juger. Vous causez ensemble avec plaisir. » « En effet, » répliqua froidement Fabien, « Mademoiselle Laurent est particulièrement avenante. C'est le mot qui convient toujours à ce type de parisienne simple, vive et gaie. Elle est avant tout honnête et bonne. Oh, sans les qualités dont je parle, l'auriez-vous remarqué ? Non, probablement, ce qui ne m'empêche pas de constater son esprit de devoir. Ensuite, un de ses charmes est de jouir comme une enfant des distractions qui lui plaisent. J'appuie sur cette disposition parce qu'elle peut me servir. Que de jouissance je lui offrirais ! Mais... » Fabien, toujours environné de fumée, répondit « Parlez-lui !»«
Je n'ose jusqu'ici. » »«
Eh bien, écrivez, voyez les parents. » Ce serait même la seule démarche correcte, du moins d'après les principes de mon éducation. Mais si je ne m'explique pas directement avec elle, je supprime un atout. Moi, je ne voudrais pas prolonger mon incertitude.